Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Walter Alexandre, l'un des responsables de cette église, marié à Laetitia, père de 3 enfants, qui étaient tous en colo aussi. Évangéliste de métier, c'est-à-dire, j'ai l'habitude de dire que c'est un pasteur pour l'extérieur de l'église, comme ça les gens y comprennent un peu mieux, même si je ne suis pas pasteur. Mais voilà, c'est comment est-ce qu'on parle de Jésus et comment est-ce qu'on fait le pont avec une société qui ne croit de moins en moins en Christ et en Dieu. Alors, André, et où André ? Il est parti ? Ah. Moi aussi, j'ai remarqué qu'à chaque fois que je prêche, il y a à manger après. Alors moi, je pense que c'est un complot. Je ne sais pas ce qui se passe, mais oui, c'est vrai. Je prêcherai de nouveau en septembre, alors je ne sais pas, peut-être qu'il y a un repas en septembre, on verra. Mais c'est vrai, comme disait André, soyez les bienvenus aussi pour notre repas après, c'est cool de pouvoir faire une tarte flambée. Alors aujourd'hui on est tarte flambée, hein, on n'est pas grillade, donc ça va être vraiment cool de faire ça ensemble. Alors venez, restez avec nous, c'est chouette de pouvoir faire la fête ensemble, de pouvoir se réjouir dans le nom aussi du Seigneur. Et puis avant les tarts flambés, eh ben nous allons effectivement manger, mais la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est bien plus nourrissante qu'une tarte flambée, même une tarte flambée au Munster. Bon, ça cale bien. Alors si vous voulez, on peut aussi prier un jour pour que le Seigneur il nous mette une tarte flambée au Munster, au paradis. Hein, ça peut être sympa. Mais ouais, alors ce matin... J'ai à cœur de vous partager un texte qui m'a été révélé il y a plus de 4 mois de ça. Alors vous savez, c'est ce genre de texte où le Seigneur, il te le place à travers une personne, c'est une personne qui me l'a dit, et finalement ce texte, il résonne encore et encore. Et la parole de Dieu est tellement puissante, elle te prend dans ton intellect, dans ton esprit, dans ton cœur, dans ton âme. Et c'est beau de voir la parole de Dieu travailler en nous. Vous avez déjà fait cette expérience que la parole ne vous lâche pas et que le texte que vous avez lu ou entendu, peut-être même d'une personne qui n'est pas chrétienne, hein, eh ben, elle vous fait vibrer votre cœur et elle ne vous lâche pas. Oui, c'est une parole vivante. Une parole de vérité, une parole qui bouleverse. Et autant des écrans à profusion, eh ben, où on y, et là on ouvre la Bible, on a des fois juste un mot, un verset, et c'est plus fort que les artifices qu'on a pu inventer à travers nos smartphones. Et moi je dis, waouh, merci Seigneur, parce que tu parles bien plus encore que nos téléphones, par exemple. Mais c'est vrai que nos téléphones prennent quand même encore beaucoup trop de place. Hein. Alors, mon texte de prédication ce matin se trouve dans Romains 10, 13 à 15, et c'est un texte qu'on m'a donné et que moi-même j'ai redonné. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis devenu coordinateur du tremplin. Donc, dans ma fonction d'évangéliste, j'ai 20% pour le coordinateur en tant que tremplin, donc c'est moi en réalité qui vais un peu arranger toutes les colos, voir que tout fonctionne bien et qu'il n'y ait pas de point de grippage, on va dire. Donc 20% c'est à peu près une journée par semaine que je travaille pour eux, et je vous avoue que là actuellement c'était chaud parce que j'ai beaucoup travaillé, il y a toutes les colos qui sont actuellement en même temps, donc j'ai pas eu beaucoup d'heures de sommeil, donc c'était ouais. Alors, et c'est au début de ces colos-là, donc là on arrive un peu à la fin des colos maintenant, hein. On a récupéré nos enfants qui ont passé 2 semaines, on a encore quelques colos, on a la colo des 15-18 ans qui sont dans les Pyrénées, vous pouvez prier pour eux, mais vous pouvez aussi prier pour tous les jeunes qui sont rentrés pour que le Seigneur puisse continuer à travailler leur cœur. Mais c'est au début de ces colos-là que j'ai reçu un texte et que j'ai retransmis à chaque directeur de colo. Alors, ce texte il est dans Romains 10. Tous ceux qui feront appel au Seigneur seront sauvés. Mais comment feront-ils appel à lui s'ils n'ont pas cru en lui ? Et comment croiront-ils en lui s'ils ne l'ont pas entendu? Et comment entendront-ils s'il n'y a personne pour le leur donner, leur annoncer? Et comment y aura-t-il des gens pour l'annoncer s'ils ne sont pas envoyés? Ainsi est-il dit dans l'Écriture qu'ils sont beaux les pas de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Qu'ils sont beaux, dans d'autres traductions, les pieds de ceux qui annoncent l'Évangile, la bonne nouvelle. Ouais, Seigneur Jésus, permets-moi de pouvoir toujours annoncer cette merveilleuse nouvelle et que ma bouche puisse s'ouvrir non pas à mes paroles, mais aux tiennes, et que mes pieds ne puissent pas fouler mon chemin, mais le tien que tu me donnes. Ouais. Amen. Alors si vous voulez, on va prendre ce texte verset par verset pour qu'on puisse mieux comprendre ce que Paul veut nous dire. Tous ceux qui feront appel au Seigneur seront sauvés. Et nous le croyons. Et nous en avons même la preuve. Un ami à moi d'origine catholique, français, a décidé de se convertir à l'islam. On n'a pas toujours l'occasion de discuter ensemble, mais on sait tous les deux que quand cette occasion arrive, c'est très souvent un bel échange que nous avons. Lui, il m'expose sa foi, son envie de grandir et de plaire à Dieu toujours plus. Et là, la dernière fois que nous avons pu nous entretenir ensemble, il me disait « C'est quand même prétentieux de ta part que tu me dis que tu sais que tu seras sauvé. » Et c'est vrai, pour un musulman, c'est « Inch'Allah, je ne sais pas si Dieu me sauvera. Seul Dieu décide et moi je ne sais pas. » Et mon ami fait acte sur acte pour montrer combien il est pur et combien il veut plaire à Dieu. Mais ce qu'il n'a pas compris, c'est que nous n'avons pas besoin de remuer ciel et terre pour plaire à Dieu. Il nous aime d'un amour tellement fou, tellement grand, tellement puissant, qu'il décide lui-même de s'incarner dans un homme, Jésus. Il sait que tu ne peux pas remuer le ciel, même avec les actes que nous pouvons faire, alors il décide lui-même de remuer la terre. Là où nous en sommes dans nos difficultés, là où j'en suis avec mes problèmes, et Dieu sait que je l'aime de tout mon cœur, mais que je n'y arriverai jamais à le concrétiser en acte, car je suis trop imparfait, et cela me rend triste. Et en même temps, je suis vraiment rempli de joie, car c'est lui, Jésus, qui me dit « Tu n'y arriveras pas, moi je peux t'aider, crois en moi ». Et je te donne accès au Père, accès à Dieu. Nous ne sommes pas, nous, chrétiens prétentieux. Nous savons juste que cela a marché. Jésus est mort pour mes fautes, mes manquements, mes actes. Et ça a fonctionné car il est ressuscité. Si Jésus était resté dans la tombe, nous aussi, nous aurions pu dire « Inch'Allah, je ne sais pas si ça marche. Je ne sais pas si Dieu peut me sauver. » Mais cela n'a pas été le cas. Jésus est ressuscité, il est vivant. Et moi, je peux dire « Oui, ça a fonctionné, je suis pardonné. » Ce n'est pas prétentieux, ce n'est pas être prétentieux. C'est juste qu'il nous l'a montré. C'est bon, les gars. Vous êtes sauvés maintenant, prenez mon exemple, dit Jésus, et croyez en moi. Ouais. À travers sa résurrection, il nous laisse la certitude que son sacrifice a fonctionné. Je peux à nouveau m'approcher de Dieu. Oui, il nous accepte, si nous acceptons Jésus. Et cela fait maintenant des mois que je n'ai plus eu l'occasion de discuter avec lui. On ne se voit vraiment pas souvent. Mais je sais qu'il cherche Dieu de tout son cœur et je prie qu'il trouve cette paix en Christ, qu'ils trouvent le chemin qui le ramène à Dieu et pas à lui-même, à travers ses actes, à travers les piliers de l'islam qu'il doit faire. Pas qu'il se mette au centre, mais qu'il laisse Dieu se mettre au centre. Tous ceux qui feront appel au Seigneur seront sauvés. Mais finalement, comment feront-ils appel à lui s'ils n'ont pas cru en lui? Et comment croiront-ils en lui s'ils ne l'ont pas entendu? Et comment entendront-ils s'il n'y a personne pour le leur annoncer? Et comment y aura-t-il des gens pour l'annoncer s'ils ne sont pas envoyés? J'ai fait un repas, là, il n'y a pas si longtemps de ça, avec des gars, et j'étais un peu triste. Car à un moment donné, on parlait de directeur de colo et d'animateur, et c'est vrai que je cherche toujours encore des animateurs, des directeurs pour l'année prochaine, par exemple. Et finalement, en discutant tout ça avec les gars, ben, tout de suite, ça a commencé un peu à chambrer. « Ah non, 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 les enfants, c'est bien, mais quand ils sont au lit. Ah non, 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 les enfants, c'est bien, mais pour les autres. Non, non, jamais de la vie, je ferai directeur ou animateur. » Et moi, j'ai été triste. Mais comment les enfants feront-ils appel à Jésus s'ils n'ont pas cru en lui? Et comment croiront-ils, les enfants, en lui s'ils ne l'ont pas entendu? Et comment entendront-ils, les enfants, s'il n'y a personne pour le leur annoncer? Et comment y aura-t-il des gens pour l'annoncer s'ils ne sont pas envoyés? J'ai été triste parce qu'on n'a pas compris. Ce soir-là, combien c'est important que chaque personne, y compris les enfants, puisse entendre parler de Jésus. On n'a pas compris que ce n'est pas ma volonté que je veux faire, mais celle de Dieu. On n'a pas compris que s'il n'y a pas de directeur ou animateur qui se lève, mais qui va leur annoncer la parole ? Je vous ai dit au début que cette semaine, elle a été extrêmement chargée pour moi. J'ai beaucoup travaillé à la SNCF, mais en même temps, je visitais les colos. J'ai eu très peu de sommeil et j'ai visité quasiment toutes les colos. Et l'année dernière, on avait fait des appels dans les différentes églises pour dire qui va leur annoncer la parole à ces enfants. Et nous avons eu des gens qui se sont levés. Des personnes âgées pour faire la cuisine, le message. Et je remercie Ange, par exemple, qui s'est levé, au pied levé. Là, j'ai une personne qui s'est désistée un peu à la dernière minute et elle a dit « Ok, je viens ». Et je remercie aussi d'autres mamies qui se sont levées pour faire la cuisine. Alors effectivement, elles sont sur les rotules, là, fin de la semaine, là, je les ai vues. C'était compliqué. Elles étaient sur les 4-7 ans et elles préparaient le repas pour ses petits-enfants. Mais c'est cool. Et je remercie aussi pour tous les animateurs qui se sont levés, tous les directeurs. Merci Mickaël. Mickaël, il est revenu hier avec la camionnette, des tout petits yeux. Il se dit, oula, il faut qu'il dorme maintenant. 15 jours avec les jeunes sous tente. Mais cool, cool et merci à toi. Merci à vous qui vous engagez. Et une animatrice parmi les 4-7 ans que j'ai visité là, est venue exprès de la région parisienne, car elle a entendu l'appel qu'on a fait, que nous ne sommes pas assez nombreux. Et elle a décidé de venir pour servir de Paris jusqu'à dans les Vosges. Waouh ! Merci Seigneur. Et je me dis qu'elle a été bien plus sage que nous à notre soirée. Alors oui, c'est vrai que nous ne sommes pas tous faits pour travailler avec les jeunes, c'est vrai. Nous ne sommes pas tous faits non plus pour travailler avec les anciens. Mais en même temps, je veux me laisser guider par Jésus. Que mes pas soient guidés par lui. Que lui puisse me montrer où je dois être. Même si cela me coûte, même si j'ai du mal à travailler avec les jeunes, même si j'ai peut-être une autre vision. Seigneur Jésus, brise mes visions et mes rêves et permets-moi d'être juste dans ta volonté, même si cela me fait peur, même si cela me coûte et cela nous coûtera toujours. et je vous encourage, chacun d'entre vous, à vous lever, à servir dans différents pôles. Il n'y a pas que la jeunesse, effectivement. Et combien c'est tellement enrichissant de servir. Car c'est en servant que nous grandissons dans notre relation avec les autres, avec nous-mêmes et avec Dieu. Priez et demandez au Seigneur où il doit vous envoyer. Même si à cet endroit vous ne voulez pas y aller, combien j'ai entendu de témoignages de gens qui ne voulaient pas partir dans certains endroits. À porte ouverte, on le voit souvent, hein ? Et combien le Seigneur leur a dit « Non, mais tu es le meilleur pour cet endroit-là. » Et si vous êtes mort à vous-même et que Christ vit en vous, eh bien vous ne décidez pas. Vous ne décidez pas votre chemin. Mais vous faites confiance. Vous faites confiance à Jésus. Car on a un Dieu qui sait bien mieux que nous ce qui nous correspond ou pas. Nous avons une responsabilité dans l'annonce de l'Évangile. Et le Seigneur nous appelle et nous avons à obéir. Alors je ne sais pas si dans notre texte, vous avez pu remarquer les différentes responsabilités. Je vais le relire, vous verrez. Mais comment feront-ils appel à lui s'ils n'ont pas cru en lui ? Ça, c'est la responsabilité de la personne. De la personne qui est appelée à Dieu. Simplement de croire. Mais c'est compliqué, hein ? Je le vois avec mon ami musulman, où c'est difficile. Parce que c'est beaucoup plus facile de transmettre des actes ou de faire des actes, dans les piliers de l'islam par exemple, que de juste dire... « Ok, je meurs à moi-même et je te laisse complètement, Jésus, ma vie. » Ça, c'est dur. Et c'est compliqué parce qu'on a beaucoup d'idées préconçues qui doivent être abattues avant de pouvoir croire. Jésus, c'est vraiment Dieu dans un homme, sur la terre ? Jésus mort sur la croix pour mes fautes ? Vraiment ? Mais cette partie-là, c'est pleinement la responsabilité de la personne, pas la vôtre. Nous n'avons pas à forcer les gens à se convertir, à croire. Le Seigneur ne nous demande pas de convertir les gens, non, c'est juste de parler de lui. Et nous avons une société qui marche à la rentabilité. Et je le vois des fois dans certaines églises, il faut faire du chiffre. Et des fois, dans nos églises, on se laisse imprégner par ça, malheureusement. Mais on n'est pas là pour faire du chiffre. On n'est pas là pour faire une question de rentabilité sur des personnes. On peut, et je ne le dis pas, voir s'il y a des choses qui marchent et des choses qui ne marchent pas. Ça arrive dans l'évangélisation. Je sais que dans notre société, par exemple, faire des films débats, ça ne marche plus. On le sait. Mais c'est pas grave, on cherche autre chose. Et c'est pour cela que, par exemple, je n'ai jamais mis de compteur. Vous savez, on a un site internet où on peut écouter nos messages prédications. Et je n'ai jamais mis un compteur dessus pour savoir combien de personnes écoutent. Parce que justement, je ne veux pas l'arrêter, même s'il y a personne qui écoute. Parce qu'il suffit d'une personne qui peut être touché par la grâce de Jésus. Et pour cette personne-là, ça vaut le coup. Ça vaut le coup de continuer. On continue pour voir les responsabilités. Donc là, j'étais sur le tout premier. Et comment croiront-ils en lui s'ils ne l'ont pas entendu ? Et comment entendront-ils s'il n'y a personne pour le leur annoncer ? Ça, c'est chacun d'entre nous. C'est notre responsabilité à nous d'annoncer l'Évangile. Je sais que ce n'est pas toujours facile. Des fois, je rentre à la maison et je dis à ma femme, « Purée, je suis tombé sur quelqu'un et je n'ai pas réussi à trouver les mots, à trouver la pensée que je voulais vraiment lui transmettre. Et j'ai cet esprit d'escalier. » Alors, je ne sais pas si vous savez, mais l'esprit d'escalier, c'est un sénateur ou un député chez nous, en France, qui disait ça, et il disait, purée, je suis dans l'hémicycle, on parle, on débat, je trouve pas les mots, je sors de l'hémicycle, je descends l'escalier, c'est là que je me dis, purée, c'est ça que j'aurais dû lui dire. Et du coup, il a appelé ça l'esprit d'escalier. Alors maintenant, moi, je dis tout le temps que j'ai l'esprit d'escalier parce que je me dis, purée, c'est trop tard, c'est passé maintenant. Ouais. Et moi, j'ai cet esprit d'escalier à fond des fois. Mais en même temps, c'est de notre responsabilité d'annoncer en tout temps et en toute occasion. Et pour cela, on n'est pas à la retraite. André, t'as cru que t'avais terminé là ? Hein ? Ok, non, t'es pas à la retraite. Hein, le Seigneur, il te laisse pas tranquille. Non, t'as pas fini. Ceux qui sont à la retraite, vous n'avez pas fini non plus. Ouais, on n'a pas fini et on continue à travailler. Et pour que vous puissiez comprendre, je vous raconte une histoire. Un jour, il y a un missionnaire qui était parti pendant des années et des années en mission dans un pays étranger et il rentre chez lui après avoir travaillé tellement longtemps. Et sur le bateau qui le ramène chez lui, dans son pays, il y a le président de son pays qui est sur ce bateau-là. Waouh, la classe! Et puis ce bateau arrive à bon port, dans le bon pays, et quand il arrive à destination, eh ben, au port, il y a des énormes banderoles. « Bienvenue, monsieur le président, dans votre pays !» Et tu as des milliers de personnes qui sont là pour l'acclamer et pour faire la fête. Et quand tu as le président qui sort, ben, tu as tout le monde qui applaudit et qui accueille le président. Et quand tu as le missionnaire qui sort, personne. Personne ne l'attend. Aucune banderole pour lui. Même pas un petit ballon. Rien. Et le missionnaire, il crie au Seigneur et lui dit, « C'est pas juste. Tu vois toutes ces années où j'ai travaillé pour toi dans ces pays lointains ?» Et là, il n'y a personne. Personne qui m'accueille. C'est injuste, Seigneur. Et Dieu, il lui répond, « Tu n'es pas encore rentré à la maison. » Ta mission continue. Nous n'avons pas fini de travailler. Nous ne sommes pas rentrés à la maison. Nous ne sommes pas à la fin de notre mission, même si nous sommes à la retraite. Nous sommes toujours encore au travail. Et Jésus nous le dit dans Luc 17, au verset 7 à 10, je ne l'ai pas affiché. Il dit, « Supposons que l'un de vous est un serviteur. » Ok, d'accord, on les a plus les serviteurs de nos jours. Mais supposez que vous avez encore un serviteur occupé à labourer ou à garder le troupeau. En le voyant rentrer des champs, lui diriez-vous, viens vite, assieds-toi à table. Non, vous lui diriez plutôt, prépare-moi mon dîner. Mets-toi en tenue pour me servir jusqu'à ce que j'aie fini de manger et de boire. Ensuite, tu mangeras et tu boiras à ton tour. Le maître doit-il une reconnaissance particulière à cet esclave parce qu'il a fait ce qui lui était commandé ? Bien sûr que non. Il en est de même pour vous. Quand vous aurez fait tout ce qui vous est commandé, dites, nous ne sommes que des serviteurs sans mérite particulier. Nous n'avons fait que notre devoir. Ouh, dur hein, comme passage. Hein ? J'ai mis longtemps à le comprendre et à ne pas me dire « Waouh, Dieu, là, tu es dur là, sur ce passage. » Mais au contraire, il est juste. On peut se plaindre avec le sacrifice que Jésus a fait pour nous ? Non, je crois plus. Avec ce qu'il a fait pour nous, on ne pourra jamais nous plaindre. Il nous sauve de cet éloignement de Dieu. Il nous sauve de cet enfer. Nous sommes encore au service. Nous avons encore à servir le Seigneur. Alors prenez votre responsabilité, celle d'annoncer le plus beau message qu'il puisse exister sur cette terre. Vous êtes sauvés de vous-même, de votre péché. Vous êtes pardonnés. Vous pouvez retrouver le chemin de la maison. Mais pour cela, il n'y a qu'une seule chose à faire. Choisir le bon chemin. Jésus, lui seul, peut nous ramener à Dieu. Mais pour donner la parole, un petit conseil quand même, ne vous imposez pas. Sinon la personne va devoir se battre avec vous finalement, dans les idées je parle, hein. Parce que j'ai vu des fois des gens qui sont lourds. Jésus, il ne s'est jamais imposé. On a encore discuté la dernière fois sur l'homme riche. Qu'est-ce que je peux faire, Seigneur ? Vends tout et suis-moi. Et la personne est partie triste. Qu'est-ce qu'il a fait, Jésus ? Ben, il l'a laissé partir. Et nous, des fois, on a tendance à dire, non, allez, reviens, reviens, c'est bon. Fais que 50% et c'est bon. Allez, fais que 80% et... ou 20% et c'est bon. Non. Là, vous êtes en train de vous battre avec la personne. Et ce n'est pas ce que le Seigneur il vous demande. Le Seigneur, ce qu'il veut, c'est que la personne puisse se battre avec le Saint-Esprit. Et par expérience, c'est beaucoup plus efficace que si c'est avec moi que la personne doit se battre. Surtout avec mon esprit d'escalier. Donc voilà. Laissez l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, se battre dans le cœur de la personne et résonner encore et encore comme il le fait dans sa parole. Alors je n'ai pas fini pour les responsabilités, il reste une phrase encore pour les responsabilités qui donne une autre catégorie de personnes. Et comment y aura-t-il des gens pour l'annoncer s'ils ne sont pas envoyé. Ça, c'est de ma responsabilité en tant que responsable d'église, comme celle de Karine, de David ou de Victor. Veuillez nous excuser si nous n'avons pas vu ou loupé un envoi, mais on vous encourage à venir vers nous. Si vous êtes à l'aise dans des dons, si vous pensez pouvoir servir le Seigneur dans quelque chose, dans une qualité particulière, et dans la prière et le discernement, on peut vous aider, vous aiguiller, développer votre don pour vous équiper et pour vous envoyer. Et moi, je rêve à l'église de Bouxwiller d'envoyer des gens, de pouvoir qui se lèvent et qui vont me dire « on veut faire une implantation d'église ». « Waouh, cool !» Ok, on te forme et on t'envoie. Et je rêve de voir des animateurs, des directeurs de colo et dans d'autres pôles encore de notre église. Chez France Évangélisation, nous savons que le processus du disciple n'est pas fini à la conversion d'une personne. Bien au contraire, nous avons ce devoir de les aider à devenir des disciples matures, c'est-à-dire des disciples qui savent marcher droit avec Dieu. Et nous avons pris l'habitude de formuler cela par quatre mots. Le processus du disciple, c'est évangéliser, enraciner, équiper, envoyer. Vous remarquez, il y a les différents pôles de responsabilité. Mais nous avons un grand rôle à jouer. Et c'est pour cela que quand je viens vers vous et que je vous dis « Tu ne veux pas me prendre un jeune ? Faire du discipulat avec lui ? Je te forme à ça ?» Eh bien voilà, ça fait pleinement partie de l'enracinement et de l'équipement de ce jeune. Et on ne peut pas faire tout seul. Et j'ai besoin de vous, de chacun d'entre vous. Et vous-même, vous avez cette pierre à l'édifice à mettre pour que certains puissent grandir, être équipés et devenir eux aussi des disciples fermes et matures et que nous puissions après les envoyer dans différentes responsabilités. Allez, je termine avec la dernière phrase de notre texte. Qu'ils sont beaux les pas de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Une citation qui est emprunté à Ésaïe, qui parle en réalité des messagers d'Israël qui annonçaient la libération imminente de leur captivité à Babylone. Et Paul, dans Romains, a repris ça pour nous parler à nous de cette fin imminente de notre captivité avec le péché et le retour à la maison près du Père, dans ce jardin que nous avons perdu. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'Évangile. Ne vous laissez pas intimider par notre société, ne vous laissez pas endormir par notre monde, ne vous laissez pas corrompre par des idées, mais annoncez ce message qui nous dépasse tous. Laissez la parole vivante agir dans le cœur de la personne et dans notre cœur aussi. Transmettez, c'est tout. Tous ceux qui feront appel au Seigneur seront sauvés. Mais comment feront-ils appel à lui s'ils n'ont pas cru en lui? Et comment croiront-ils en lui s'ils ne l'ont pas entendu? Et comment entendront-ils s'il n'y a personne pour le leur annoncer? Et comment y aura-t-il des gens pour l'annoncer s'ils ne sont pas envoyés? Ainsi est-il dit dans l'Écriture qu'ils sont beaux les pas de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Assemblée de Bouxwiller, j'ai envie de voir des beaux pieds. Alors en marche, soyez de vrais disciples, levez-vous au travail. Et avant le travail, avant de vous envoyer, on fait une tarte flambée. Amen.